Le Forum social européen regroupe un certain nombre d'acteurs des mouvements sociaux, des organisations syndicales à l'échelle européenne. Il se tenait en Scandinavie, à Malmö, ce qui nous a permis d'intégrer dans le processus des forums toute une série d'acteurs sociaux qui n'étaient pas présents auparavant, notamment les grosses organisations écologiques du nord de l'Europe, les organisations syndicales du nord de l'Europe qui n'étaient pas intégrées dans le processus, là sont rentrées dans le processus et on a pu avoir des débats et des propositions d'action extrêmement fortes autour du thème de l'écologie et de la des rapports entre le changement climatique et la justice sociale, des discussions extrêmement importantes sur la question de l'Europe sociale, bon, et des attaques qui sont aujourd'hui portées contre le droit du travail en Europe par les arrêts de la Cour de justice européenne et par les projets de la Commission européenne, avec notamment un projet de directive sur le temps de travail qui va permettre, qui si jamais il était adopté, permettrait de faire travailler les gens plus de 65 heures par semaine. Donc toutes ces questions-là ont été un peu au cœur des discussions du Forum social européen. Et il en est résulté trois grands axes de mobilisation. Le premier est au moment où le G8 se réunira, qui regroupe les plus grandes puissances mondiales, il devrait se réunir au mois de juillet en Sardaigne, et il est prévu à ce propos une mobilisation importante pour interpeller le G8, notamment sur la question de la crise financière, bon, qui a été un objet de débat aussi très important lors de ce Forum social européen. Ça, c'est le premier axe. Un processus autour des questions de l'Europe sociale, avec l'idée d'une initiative de mobilisation au mois de mars, au moment du sommet européen à Bruxelles, qui porte justement sur les questions sociales. Et enfin, une mobilisation contre les processus de guerre et au moment de l'anniversaire de la création de l'OTAN, qui aura lieu au mois d'avril. Donc ce sont les trois moments de mobilisation qui ont été retenus lors du Forum social européen. On peut dire que la construction d'un véritable mouvement social à l'échelle de l'Europe continue maintenant depuis plusieurs années. Et ça a été une étape assez importante.
Alors vous en avez parlé un petit peu de cette crise financière. Normalement, le thème de la conférence de ce soir, c'est les retraites, mais vous m'avez dit donc vous parleriez largement aussi de cette crise financière. Alors, qu'est-ce que vous allez dire un petit peu sur cette crise financière de ce soir?
Eh bien, au-delà des mécanismes de contagion financière et de panique financière que l'on voit actuellement, je pense qu'il faut revenir aux fondamentaux, aux raisons profondes de cette crise. Et elles tiennent pour nous au fait qu'a été mis en place maintenant depuis un quart de siècle à peu près un modèle économique de plus en plus inégalitaire. Simplement deux chiffres qui montrent ça en France, mais le processus est encore plus développé aux États-Unis. C'est le fait qu'en 1980, le pourcentage des dividendes reversés aux actionnaires par rapport à la masse salariale, ça représentait 4,4% de la masse salariale, les dividendes versés aux actionnaires. Aujourd'hui, c'est plus de 12%, 12,4% de la masse salariale. Ça c'est le premier. Un autre chiffre, c'est souvent une étude de la Commission européenne, donc c'est tout ce qu'il y a de plus officiel. Et là, les chiffres que je vous ai donnés précédemment sont les chiffres de l'INSEE. Une étude de la Commission européenne indique que la part des salaires dans la richesse produite, dans le PIB, a baissé en un quart de siècle en moyenne de 12 points. Bon. Et en France, c'est d'un peu plus de 10 points, donc ce qui est considérable. Donc on est dans une situation où le pouvoir d'achat des salariés soit stagne, soit baisse. Bon. Mais le problème du salaire, c'est que ce n'est pas, c'est évidemment pour un patron individuel, c'est un coût. Bon, qui cherche à faire baisser, mais dans une société où 90% des gens sont salariés, c'est aussi un moyen, comme disent les économistes, de solvabiliser la demande, bon, et donc de faire tourner l'économie. Et donc, en fait, pour résoudre cette contradiction, qui est une vieille contradiction du capitalisme, c'est-à-dire le fait que comment vendre des marchandises qui sont produites ou des services qui sont produits s'il n'y a pas des gens pour les acheter? Bon, eh bien, dans un certain nombre de pays, notamment aux États-Unis, mais pas seulement, hein, en Espagne, en Grande-Bretagne et en Irlande, a été mis en place un système tout à fait particulier qui est, qu'on peut résumer d'une seule phrase, c'est de plus en plus de dettes et de moins en moins de salaires. Bon. Et donc, on a eu un fonctionnement de l'économie qui a été basé sur l'endettement pour justement permettre à la consommation des ménages de continuer, alors que les dividendes des actionnaires explosaient et les salaires soit stagnaient, soit baissaient. Et c'est ce modèle-là qui est rentré en crise avec le fait que, par des mécanismes financiers et une innovation financière autour de la titrisation, du fait qu'on pouvait repousser par le réchargement continu des prêts l'endettement des ménages, et bien à partir du moment où les ménages les plus pauvres ont été dans l'incapacité de faire face à leurs échéances, et bien la bulle financière qui avait été créée autour de l'endettement a éclaté et il y a eu ce qu'on voit actuellement, c'est-à-dire une sorte de contagion et de jeu de domino qui s'est répandu à travers le monde et qui s'est d'autant plus répandu que depuis maintenant à peu près là aussi 25 ans, il y a un processus de déréglementation des marchés financiers qui a été mis en place et toutes les pare-feux qui avaient été construites patiemment après la crise de 1929 ont été systématiquement détruits par les gouvernements. Bon. Et donc, on se retrouve dans une situation dans laquelle il y a une finance déréglementée et folle qui aujourd'hui est en train d'imploser. Littéralement, mais hélas, dans cette affaire, le prix risque d'être payé par les populations et par les salariés. Bon. Et c'est ce qu'on voit avec les procédures de renflouement des banques, où c'est l'argent public qui vient au secours des banques privées et où on a une socialisation des pertes. Bon. Le système libéral, c'est la socialisation des pertes et la privatisation des profits. Bon. Et la caricature, à mon avis, ayant été atteint par les Britanniques, qui viennent de nationaliser les actifs pourris d'une banque d'affaires et qui ont cédé à une banque espagnole tout ce qui était les actifs les plus rentables. Bon. Et il est assez logique dans ce cadre-là qu'aux États-Unis, il y a une révolte de la population contre le fait qu'on veut faire payer à la population, parce que c'est la population qui va payer plus de 1 000 milliards de dollars pour sauver le système financier américain, alors qu'aucune taxe sur les profits des banques n'est même envisagée. Donc là, on est dans un système qui est en bout de course. Et dont il faut maintenant rapidement sortir. Mais on ne pourra en sortir que non seulement si on casse les reins à la finance en prenant des mesures extrêmement précises de réglementation des marchés financiers, de recloisonnement des marchés financiers. Il y a toute une série de mesures techniques qui sont sur la table aujourd'hui et qui sont très connues, qu'on peut prendre, qu'une décision politique suffirait à prendre, qui ne sont pas très compliquées techniquement à prendre. Mais il faut aller aussi plus loin, il faut mettre en place un nouveau modèle économique qui fasse que les gains de productivité soient partagés de façon équitable entre les salariés et les entreprises, que la richesse produite soit partagée de façon normale et que ce ne soit pas les actionnaires qui s'enrichissent sur le dos des populations.
Ah, peut-être un mot sur la réaction de l'Élysée qui annonce un petit peu de mettre un peu de morale dans le marché.
Je dirais qu'elle prêterait à sourire si la situation n'était pas si grave. Parce que, d'abord, elle vient de la part de quelqu'un qui a encouragé la financiarisation de l'économie, qui a pris des mesures en faveur des couches de la société les plus riches avec le paquet fiscal et qui a encouragé les entreprises à intervenir sur les marchés financiers. Donc ça, c'est le premier point. Deux, je veux dire, hélas, la morale, les appels à la morale dans cette affaire, je veux dire, seront totalement insuffisants. Bon, parce que le problème, ce n'est pas de morale dont nous avons besoin, c'est de décisions politiques courageuses qui remettent en question un mode de développement néolibéral qui a fait faillite et qui mène le monde à sa ruine.
Alors vous êtes invité ce soir par Attaque Artois Ternois et puis Union Solidaire pour parler d'un autre thème, c'est celui des retraites. quel sera le contenu en fait de cette conférence, quel discours sur les retraites?
D'abord, c'est un autre thème, mais il est quand même un peu, je dirais, connexe avec le thème dont nous venons discuter. Parce qu'un des projets des néolibéraux et du gouvernement, qui ne s'en est jamais caché, était justement de développer l'épargne salariale en matière de retraite et les fonds de pension par capitalisation, et donc de développer la capitalisation en matière de retraite. Or, nous voyons aujourd'hui, avec la crise financière, à quel point il aurait été dangereux pour les Français de jouer leur retraite à la bourse. Bon. Et par exemple, bon, ce qu'on ne sait pas, c'est que le gouvernement Jospin avait instauré un fonds public de retraite par capitalisation qui s'appelle le fonds de réserve des retraites. Bon, il y a quelques milliards qui traînent dans ce fonds-là. Bon, l'idée était de le faire monter en puissance progressivement pour que, en fait, il serve d'aide à la retraite pour financer la retraite par répartition. Ce fonds de réserve des retraites a perdu 25% de sa valeur en quelques mois. Bon. Donc, ce qui est totalement considérable. Donc l'idée qu'on puisse aujourd'hui remplacer la retraite par répartition qui est assurée par la cotisation sociale par une retraite par capitalisation, on savait déjà auparavant que c'était une idée fausse. Elle montre là, de façon concrète, que c'est une idée aberrante. Bon. Et qu'heureusement, il y a une résistance du corps social, des mouvements sociaux, pour empêcher le développement de la retraite par capitalisation et faire en sorte que les Français ne se retrouvent pas dans la même situation que les citoyens américains qui sont, ou britanniques, dont les retraites sont aujourd'hui quasiment égales à zéro. Et les fonds de pension américains sont aujourd'hui ruinés. De la même façon que les fonds de pension britanniques. Donc les deux sujets, on le voit, sont tout à fait liés. Au-delà de ça, bon, ce que je développerai, c'est l'idée que, en fait, les réformes qui sont avancées, ou plutôt les contre-réformes, parce qu'il s'agit pas, le mot réforme là a été dévoyé de son terme. À l'origine, il signifiait un progrès social pour la population. Là, dès qu'on entend le mot réforme, en fait, on pense que, et à juste titre aujourd'hui, que ça va être des régressions sociales. Donc, c'est pour ça que le terme plus juste serait d'ailleurs de contre-réforme, que les contre-réformes en matière de retraite, qui vise à baisser le niveau des pensions de retraite, bon, ne sont ni nécessaires, bon, ni souhaitables. Bon, et au sens où l'argument démographique qui est avancé est un argument qui est concrètement faux. Bon, le Conseil d'orientation des retraites, bon, dans son dernier rapport de 2007, qui s'appuie d'ailleurs sur le rapport de l'INSEE de 2006 en matière de démographie, indique qu'à l'horizon de 2020, il faudra un point de PIB, c'est-à-dire un point de richesse supplémentaire, pour financer les retraites. Un point de PIB, c'est moins que la marge d'erreur des calculs économiques sur cette période. Donc c'est autant dire rien du tout. Un point de PIB, aujourd'hui, ça correspond à 10% des dividendes versés aux actionnaires. Bon. Donc on est dans le non-problème. Voilà. Donc le véritable problème aujourd'hui, c'est que les attaques déjà menées contre les retraites ont amorcé une paupérisation des retraités. C'est ça le véritable problème. Et ce qu'il faudrait aujourd'hui, c'est une véritable réforme des retraites qui permette justement de faire en sorte que les retraités puissent maintenir le niveau de vie qu'ils ont acquis pendant la vie active. C'est ça l'enjeu aujourd'hui des débats pour nous en matière de retraite. Le grand apport de la retraite par répartition et de développement de 30 ans de retraite par répartition, c'est justement le fait qu'on a, sinon totalement éradiqué, mais en grande partie éradiqué la pauvreté parmi les retraités. Et le fait que les retraités pouvaient peu ou prou garder le niveau de vie qu'ils avaient pendant la vie active. Et bien c'est ça qui est aujourd'hui en train d'être mis en cause. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, pour nous, bon, il faut développer les mobilisations autour de cet aspect.
Alors, autre sujet d'actualité dans l'actualité sociale, c'est le mouvement au sein de la Poste. Donc là, peut-être, on a un autre intervenant sur ce sujet. On va commencer, enfin, continuer plutôt avec vous, Pierre Calfat. Comment vous voyez ce mouvement et puis son évolution?
Sur la question de la Poste, et la défense donc, du service public postal, parce qu'il y a un projet de privatisation de la Poste qui aboutirait, s'il était conduit à son terme, à la destruction totale du service public. Bon, donc l'enjeu aujourd'hui en la matière, c'est de faire bouger la société. C'est-à-dire, le service public, ça appartient aux citoyens. C'est évidemment quelque chose qui est très important pour les salariés de la Poste, qui sont mobilisés pour le défendre, mais ce n'est pas simplement un problème des salariés de la Poste, c'est un problème qui concerne l'ensemble des citoyens. Et c'est pour ça que nous avons aujourd'hui créé un cadre unitaire extrêmement large, qui regroupe des partis politiques, des associations, la quasi-totalité des syndicats de la Poste, pour exiger un débat public sur la question de l'avenir du service public postal et un référendum, pour que ce soit les citoyens qui décident de l'avenir de la Poste et pas seulement une majorité parlementaire de circonstance. Bon. La Poste est un service public essentiel qui joue un rôle fondamental dans notre société. Le projet de la direction de la Poste, qui a l'air plus ou moins soutenu par le gouvernement, vise à détruire ce service public. Et donc, il s'agit pour nous de mobiliser la société pour empêcher ce qui apparaît comme un coup, qui serait tout à fait dommageable aujourd'hui. J'ajouterai, et c'est un rapport avec la crise financière, qui paraît aberrant, alors qu'il y a une crise démente sur les marchés financiers, de vouloir privatiser un service public et introduire la Poste en bourse. Alors que la financiarisation est en train d'exploser, la direction de la Poste, visiblement soutenue par le gouvernement, continue comme si rien n'était à vouloir privatiser la Poste et introduire la Poste en bourse. On est dans l'aberration la plus totale.
Alors, j'ai justement une question là-dessus, mais avant, on va peut-être faire le point sur cette mobilisation au sein de la Poste avec une personne de Sud PTT. Est-ce que vous pouvez vous présenter d'abord ?
Oui, je suis Hervé Lebrun, je suis à Sud PTT, je travaille à la Poste de Vannalvieille. Donc, il se trouve que la mobilisation se passe au niveau national, donc tous syndicats confondus, effectivement. Une unité syndicale très forte, comme on n'a pas connu depuis assez longtemps. Pour savoir et reprendre un peu l'historique, quoi. Je veux dire, la Poste vient des PTT, 90, c'est entreprise publique, exploitant public, et France Télécom a connu effectivement le même cheminement avec une ouverture de capital qui a donné ce qu'elle a donné, c'est-à-dire en 10 ans, France Télécom est passé de 20% d'ouverture de capital à 70% maintenant. Donc quelque part, France Télécom est passé en société anonyme et on voit les dégâts que ça porte, c'est-à-dire des suppressions d'emplois, des fermetures d'établissements, etc. Bon, à la Poste, ça se passe comme ça depuis un certain temps et le président de la Poste, Jean-Paul Bailly, a décidé de proposer l'ouverture de capital. Alors pour nous, c'est effectivement très grave par rapport à l'aménagement du territoire, par rapport à la mission de service public qu'on a, puisqu'on sait que, on sait pertinemment que ça va entraîner des fermetures de bureaux qui ont déjà commencé, qui ont déjà débuté, mais qui vont s'accélérer avec cette ouverture de capital et qui, irrémédiablement, dans les 3-4 ans qui suivent, ça sera la privatisation totale. Alors, en parallèle, effectivement, de ce qui se passe en France, c'est la déréglementation européenne qui, quelque part, pousse, effectivement, à filialiser, à privatiser tout ce qui est entreprise de services. Et donc, nous, au niveau de la Poste, on n'est pas à l'abri de ce qui se passe comme en Allemagne ou qui se passe comme en Hollande, où effectivement, le capital est à majorité privé et où il y a des suppressions d'emplois terribles. Donc, à ce niveau, je pense que nous, au niveau du Pas-de-Calais, on a interpellé tous les élus. On a plusieurs groupes politiques, en particulier Parti Socialiste, Parti Communiste, qui sont là, qui sont proches de nous, qui sont prêts à nous aider. On a le président du Conseil Général qui a envoyé des pétitions au maire pour lutter contre la privatisation de la Poste. Donc on a décidé effectivement d'élargir un petit peu, et certainement beaucoup, je pense à Tacartois nous a interpellé là-dessus, pas mal d'associations commencent à se bouger et disent que c'est ensemble qu'on peut faire quelque chose. Donc ensemble pour lutter clairement contre une privatisation. On ne parle pas seulement d'un début d'ouverture de capital, on sait très bien où ça mène. On a connu, on a vu ce qui se passait avec GDF, avec EDF, on sait très bien où ça mène. Donc là-dessus, faut être costaud, faut être ensemble, je pense qu'on va arriver à quelque chose.
Je reviens sur une question plus générale, sur cette logique de privatisation, de capitalisation de services publics. Est-ce que justement cette crise financière ne va pas, à terme, vous me dites, pour l'instant il n'y a aucune remise en cause de ces réformes, mais est-ce qu'à terme on ne peut pas se dire ça va être un argument contre cette logique ?
Je pense que ça va être l'objet d'un combat politique et de rapports de force. Les classes dirigeantes, les différents gouvernements vont tenter de sauvegarder l'essentiel pour eux du modèle néolibéral, qui n'est pas les marchés financiers déréglementés, mais qui est le fait que l'économie fonctionne au service du capital pour fournir des dividendes aux actionnaires. Voilà. C'est ça la logique économique actuelle. Bon. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, depuis 25 ans, nous voyons un développement de plus en plus inégalitaire dans la société, un accroissement des inégalités sociales, bon, une réduction de la part des salaires dans le revenu national, et c'est cette logique-là qu'ils veulent préserver. Et donc, ils se sont, je pense, maintenant aperçus qu'ils ne pouvaient plus laisser la finance agir comme elle le voulait. Je pense que la crise, de ce point de vue-là, aura un effet salutaire. Mais je pense qu'ils voudront conserver l'essentiel. Et pour eux, l'essentiel, c'est le fait qu'ils puissent continuer à déréglementer le marché du travail, à réduire le pouvoir d'achat des salariés, etc. Donc c'est par rapport à cela que, pour notre part, nous voulons mobiliser les salariés pour essayer, dans ces circonstances qui sont des circonstances difficiles, hein, parce qu'on voit que la crise a déjà quitté la sphère financière pour toucher l'économie réelle. Hein, vous avez vu qu'il y a une montée du chômage très importante en France et dans tous les pays européens, que la récession pointe son nez. Et donc on sait que quand il y a une montée du chômage et récession, les conditions de mobilisation sont plus difficiles. Mais malgré tout, nous pensons que c'est aujourd'hui l'occasion d'une mobilisation des salariés pour essayer d'inverser les rapports de force et d'imposer un nouveau modèle de développement économique qui soit plus favorable aux salariés, avec une nouvelle répartition des richesses qui soit plus favorable aux salariés.
Non, pour moi, c'est bon.
Comment, sur la répression syndicale?
Ah oui, ouais, bah ok, ouais.
Non, donc, Solidaire, bon, est une organisation qui dérange, et, parce que c'est une organisation qui essaye de défendre les intérêts des salariés, et ses militants sont en général en proie à la répression syndicale. Et notamment, nous avons dans la région un militant syndical qui est un délégué syndical qui s'appelle Valère Lelièvre, qui vient d'être licencié, hein, qui appartient au syndicat Sud-Sanef et qui vient d'être licencié, et qui a un exemple tout à fait typique, bon, de harcèlement, hein, de militants syndicaux. Alors, les militants de Solidaires ne sont pas les seuls, évidemment, à subir la répression. D'autres organisations syndicales la subissent aussi. Mais il faut voir que notre organisation syndicale est particulièrement touchée par la répression antisyndicale qui, aujourd'hui, est le lot quand même quotidien de beaucoup de militants syndicaux.
Peut-être un mot là-dessus pour expliquer un petit peu le cas de cette personne.
En fait, il s'agit donc de Valère Lelièvre, syndiqué à Sud-Sanef. Ce qui s'est passé, alors il devait venir lui-même expliquer un petit peu sa situation, mais il a eu un empêchement. En fait, il a été licencié pour suractivisme syndical. Ça veut dire qu'en fait, il a fait son travail de délégué syndical en défendant des salariés, En distribuant de la presse syndicale, en essayant de construire une mobilisation dans son entreprise et de défendre les conditions de travail de tous les salariés de la SANEF. Et c'est vrai qu'à partir de là, la direction a porté plainte contre lui en utilisant des témoignages, selon Valère et selon Solidaire, hein, qui sont tout à fait faux, puisqu'en fait on l'accuse d'avoir harcelé des salariés avec lesquels il n'a aucun contact, avec lesquels il ne travaille pas. Donc ça a été une première décision, son licenciement. Le tribunal, l'inspection du travail a validé ce licenciement, mais là encore, Solidaire a porté plainte devant le tribunal administratif pour remettre en cause cette décision, parce qu'apparemment, on aurait été chercher une inspectrice du travail dans l'Oise, alors que Valère travaille à Saint-Omer, une inspectrice du travail très favorable à la direction de la SANEF. Donc une procédure est en cours. Sud-Sanef est plutôt optimiste sur la l'issue, hein, de ce jugement au tribunal administratif. Et puis, bien entendu, à contre-attaquer en portant plainte pour diffamation contre la direction, mais aussi contre d'autres organisations syndicales, hein, qui se sont placées clairement du côté de la direction, et puis contre des salariés qui auraient apporté des faux témoignages.
Je voudrais simplement revenir sur l'accusation de suractivité syndicale, parce que c'est quand même une accusation assez grotesque. C'est-à-dire que c'est le patron qui décide de quelle est la norme de l'activité syndicale. Bon, donc on est quand même là, je veux dire, dans le ridicule absolu, et ça serait vraiment risible si la conséquence ne serait pas le licenciement d'un militant syndical.
Je voudrais rajouter que ça existe encore Sud PTT au niveau national. On a deux gars, enfin deux militants de Sud, qui sont, à qui on propose une révocation pour prise de parole dans l'enceinte d'un bâtiment du courrier. Et c'est tout à fait grave, quoi. Effectivement, on a vécu ça à Bordeaux aussi avec des délégués syndicaux qui apparemment défendaient les suppressions d'emplois dans leur centre de traitement du courrier de Bordeaux et qui se sont retrouvés mis à pied pendant 2 ans uniquement pour activité syndicale. Et c'est très grave. Et donc, des dossiers sont montés contre eux pour séquestration, pour empêchement de travail, quoi, je veux dire. Mais c'est tout à fait aberrant, quoi. C'est uniquement du militantisme. Et donc, Valère, oui, je le connais aussi. On a pas mal discuté avec. Effectivement, il est très touché, hein, de cette chose, quoi. C'est vraiment quelque chose qui lui tombe sur le nez. C'est une volonté de réprimer toute activité. Solidaire est particulièrement attaqué, enfin, Sud aussi, qui fait partie de Solidaire. Voilà.